Guy de Valmont, pseudonyme de Guy de Maupassant, le marché aux cochons. Les bœufs vont sans résistance à l'abattoir. Le lourd bataillon s'avance paisible dans la rue. Et sur la houle que font leurs dos, on voit osciller comme des mâts de navire leurs grandes cornes recourbées. Les moutons, par régiment, vont à la mort, trottinant l'un derrière l'autre, s'arrêtant un moment quand le premier s'arrête et repartant à l'appel du berger. Mais les misérables cochons devinent la mort qui les attend, qui les menace, et ils crient avec fureur en refusant d'avancer. Leur petit œil rond plein de désespoir absumé, fait peine, et tout leur gros corps flasque et graisseux a des frissons d'épouvante. Pour faire marcher une vache paresseuse, un âne rebelle, un chien désobéissant, on leur attache une corde au cou, après quoi l'on tire dessus. Mais pour un cochon, non pas. Leurs conducteurs ont inventé le plus invraisemblable des procédés. Vous connaissez bien cette affreuse petite queue en tire-bouchon qui semble une ficelle finissant en mèche de fouet. Elle est raide comme un câble et suffit à traîner l'énorme ventre de la bête. L'homme s'enroule au poignet cette queue et, comme elles ne sauront jamais, l'animal vient à reculons, glissant sur ses pattes comme sur des roulettes, et gagnant de colère, grognant et se delourant. Un jour que je rencontrais un paysan habitant de la sorte qui allait son cochon monstrueux. « Pourquoi, lui dis-je, le traînez-vous de cette façon ?» L'homme cligna de l'œil d'un air fin et répondit « Ben comme ça, pardine, il sait pas où il va. » Le cochon est en tout cas un animal le plus calomnié des animaux. N'est-on pas toujours sale comme un porc? Mais si cela est vrai, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Comme le ciel leur a donné un estomac dirigeant toute espèce de nourriture, ils mangent toute espèce de choses. De là cette croyance qu'ils se nourrissent exclusivement des ordures les plus repoussantes. De là aussi le proverbe « On n'engraisse pas les cochons avec de l'eau claire ». Mais je voudrais bien savoir quel est celui des animaux, à commencer par l'homme, qui deviendrait gras s'il était nourri que d'eau claire. Le cochon aime la fange, non pas par nature, mais par éducation, et parce qu'on a l'habitude de s'y vautrer. Après tout, enfin, s'il mange des ordures, il sait aussi trouver les truffes, ce qui prouve qu'il peut encore ne pas le point dépravé. Il y a des illustrations dans l'histoire, tout comme dans le cheval ou le chien. Il a causé la mort du fils d'un roi. Il possède aussi des ancêtres légendaires. Avant Louis VI, surnommé le Gros, les cochons passait librement dans la rue de Paris. Mais un jour d'été, l'un d'eux, par maladresse, avait fait tomber le cheval de Philippe, fils du roi, et ce prince était mort de sa chute. L'accès des rues, par édit royal, fut désormais interdit aux frères du coupable. Cependant, les bons pères de l'abbaye de Saint-Antoine, à force de prières et grâce à l'intercession des prêtres les plus influents, abolirent la liberté pour leurs troupeaux à condition qu'ils porteraient désormais une sonnette attachée au cou. J'ai parlé de l'abbaye de Saint-Antoine. Le cochon le plus célèbre dont la tradition pouvait léguer le souvenir, eh bien, certainement, le compagnon du saint qui lui donna son nom à cette abbaye. On connaît très peu son histoire. La voici. Un roi de Catalogne avait une femme qui était très belle et très bonne. Le diable en fut jaloux et, quittant les enfers, il s'introduisit dans le corps de la reine et lui fit commettre les actes les plus inconséquents. Le pauvre roi fut désolé de voir sa moitié possédée du diable et il apprit auprès d'elle, il appela les moines les plus vénérés, les nanachorètes les plus en renom, les évêques les plus pieux. Mais ils eurent beau faire, réciter des prières tout le jour et toute la nuit, verser des fleuves d'eau bénite sur le corps hanté par Satan, le malin ne voulut pas s'en aller et déjoua tous leurs exorcismes. Mais la renommée apporta aux oreilles du roi le nom d'un pauvre ermite qui s'appelait Antoine, doué d'une telle sainteté et d'une telle puissance, disait-on, qu'il lui suffisait qu'il entrât dans un pays pour en chasser tous les démons. Aussi comme ils se sont vengés quand Dieu leur abandonna son sein. Des ambassadeurs lui furent envoyés qui le ramenèrent de Barcelone, où il entra au milieu du peuple accouru à sa rencontre et qui s'agenouillait sur son passage. Les portes du palais étaient grandes ouvertes et il entra près de la reine possédée. Il se mit immédiatement en prière pour savoir à quel genre de démon il avait affaire et l'ayant reconnu, le chassa d'un signe de croix. Oh, la reine délivrée embrassa le bon saint. Mais voilà qu'à la stupéfaction des assistants, on vit entrer dans la chambre une grosse truie qui déposa au pied d'Antoine un pauvre petit cochon qui venait de naître privé de pattes et privé d'yeux. Antoine, sans s'expliquer, sans doute qui avait pu former cette bête du miracle qu'il venait d'accomplir, mais comprenant quel service on attendait de lui, rendit aussitôt la vie au porcelet et le touchant quatre fois avec l'index, lui fit immédiatement pousser quatre pattes. Puis ayant salué le roi, il s'en retourna vers la. Et il marchait depuis un jour, perdu dans ses prières, sans regarder ce qui l'entourait, quand il sentit qu'on lui tirait la robe par derrière. Il se retourna et aperçut le petit cochon qui, par reconnaissance, l'avait suivi et ne le quitta jamais depuis. Voilà pourquoi, si, comme je le crois, la légende est vraie, lorsque le diable, plus tard, persécuta le bon ermite, il s'acharna particulièrement sur son cochon. C'est en souvenir de sa délivrance de la reine de Catalogne. « Nous allons prendre le cochon, du bienheureux moi, Antoine. Nous en ferons du saucisson. » avec de la couenne. Guy de Valmont.